talmudique. Les choses sont là dans le monde, silencieuses, immobiles, mais tout à coup le vent se lève et la branche craque. La pierre roule et chante sur la route, le chat effrayé miaule et le robinet goutte. Plic-ploc, le monde est devenu sonore, comme dit si joliment Francis Wolff dans Pourquoi la musique ? Le monde se fait musique et la musique entre dans nos vies, reprise par les musiciens et leurs instruments, et elle s'invente et se réinvente sans cesse. Que nous dit une sonate, une symphonie, un quatuor ? Que nous disent-ils de l'état de notre monde ? Existe-t-il un lien entre la musique et la politique ? Voilà quelques questions essentielles que pose chaque page d'un roman musical intitulé « Il se souvenait de l'histoire » où la grande histoire rencontre la petite, celle du destin d'un violoniste et de sa famille qui se construit de façon fragile sur la scène du théâtre mondial de l'histoire du XXe siècle. Ami Flammeur, bonjour.
Bonjour.
Ami Flammeur, c'est un très grand plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique pour votre premier roman, un roman puissant qui est à la fois une leçon d'histoire et une leçon de musique et une très belle leçon de vie. Vous êtes violoniste, on vient de vous entendre dans la Chaconne de Bach. Vous avez joué en soliste avec de très nombreux orchestres à travers le monde. Vous êtes aussi chef d'orchestre et compositeur. Et comme professeur, vous avez formé de très nombreux élèves. Et c'est cet enseignement qui est au centre de votre roman. Que représente exactement pour vous l'enseignement de la musique, Ami Flammeur ?
Difficile de répondre vite à cette question très importante pour moi. Mais d'abord, je suis obligé tout petit peu de rebondir sur le texte magnifique que vous avez lu, sur la musique elle-même. Et tout d'un coup, ça m'a fait penser à Isaac Stern, qui disait toujours « Oh, finalement, la musique, c'est très simple. Il y a un bébé qui naît, et au début, on entend « toc, 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 toc », le cœur qui bat. Ça, c'est le rythme. Et puis, tout d'un coup, il fait « Waaah !» Ça, c'est la mélodie. Et tout ça, c'est la musique. Et j'aime bien ça, parce que quelque part, c'est aussi simple que ça. Mais évidemment, tout se construit, tout évolue, tout ça. Maintenant, l'enseignement, alors évidemment, il y a deux aspects de l'enseignement. Il y a même trois. D'abord, il y a la transmission elle-même, et pour moi, c'est, je peux même pas le justifier, c'est comme ça. Je crois que ça a été, même petit, j'avais l'impression que je voulais transmettre. Mais évidemment, en grandissant, c'est de plus en plus important. Raconter des histoires, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle comme ça, le livre. Raconter des histoires, pour moi, c'est énorme, c'est essentiel. Et faire comprendre des choses, et sans penser que j'ai la vérité d'ailleurs. Je peux donner un exemple tout bête. On vient d'entendre le début de la Chaconne. Vous savez, Bach, on vit avec comme ça toute sa vie. On a commencé sur des très mauvaises éditions, fausses, pleines d'erreurs. On a évolué, il y a eu Schering. Bon, ça, c'est là où j'en suis maintenant. C'est-à-dire, c'est ni baroque, ni romantique. C'est les deux extrêmes que je voulais éviter. Mais si je fais travailler ça, là, par exemple, j'imagine que je suis au conservatoire. Très souvent, on fait travailler à Chaconne. La plupart des étudiants vont arriver. Déjà, ils vont le jouer à peu près deux fois plus lentement que ça. Alors, premier truc dans cette... Moi, j'ai dit, attends, tu sais ce que c'est qu'une Chaconne ? C'est une pièce importante pour violon. Non, qu'est-ce que c'est ? C'est une danse. Oui, mais une fois qu'on a dit c'est une danse, c'est toujours des danses. Bon, c'est une danse espagnole. L'Espagne, c'est pas l'Italie, c'est pas la France, surtout à cette époque-là. Et puis, c'est une danse à trois temps. Et par définition, le trois temps, c'est toujours un peu tourné. C'est la valse. Finalement, depuis l'Antiquité, le trois temps, c'est quelque part comme de la valse. Ça tourne, ça danse. Donc, il faut le sentir. Donc, tu peux pas le jouer si lentement, parce que là, j'entends ta, pa, pi, mais j'entends, bon. Rien, je ne comprends pas les trois temps, je ne comprends pas la pulsation. Bon, et il faut se rappeler, par exemple, que la Chaconne est très comparable à ce qu'on appelle la passacaille. C'est une passacaille un peu plus rapide. Et la passacaille, tout le monde joue ça, mais vous savez ce que ça veut dire, la passacaille ? Ça veut dire passar una calle. Ça veut dire que c'est un cortège, c'est quelqu'un qui fait un cortège dans la rue. On traverse la rue. Et bien, la Chaconne vient de ça. Donc, excusez-moi, je vous fais comme si c'était un cours. Mais oui.
Non, mais c'est intéressant parce que
tout ça.
On revient au langage.
Oui.
C'est-à-dire qu'on souligne avec cette réflexion sur l'étymologie des mots et des termes qui nomment une pièce que la musique, on rappelle que la musique, c'est un langage, une syntaxe avec avec des mots, et que la musique veut dire quelque chose.
Voilà.
Et ça, c'est important. Et je crois que ce que vous voulez dire, c'est que il y a le son, mais il y a l'interprétation.
Voilà.
Et l'interprétation est quelque chose qui vous touche particulièrement et qui rapproche d'ailleurs, je crois, la musique du Talmud, Ami Flammer.
Alors, vous avez, c'est exactement ça, vous avez tout à fait raison. Et je veux simplement rajouter qu'en même temps, ne soyons pas démagogiques, et ça je le dis toujours à mes étudiants, bien sûr il y a tout ça, mais attention, il y a aussi le travail tout bête, quasi gymnastique, quasi technique, la technique. En même temps, tout ça, c'est magnifique, mais s'il n'y a pas aussi la technique, la propreté du son, la justesse, la capacité de faire plusieurs couleurs avec le même archet, alors c'est de la démagogie. Parce qu'on peut dire, je suis un grand musicien, mais tout à côté, c'est pas bien non plus. Être un grand virtuose et ne pas avoir de conception d'interprétation, c'est pas bien non plus. Mais, je fais les deux. Et là, par rapport à ce que vous dites, oui, ça c'est merveilleux, parce que je pense effectivement que, bon, l'interprétation, c'est... Il y a le compositeur et l'interprète. Sans, évidemment, le compositeur, c'est l'essentiel, c'est le créateur. Mais sans l'interprète, il n'est qu'une belle au bois dormant endormie. Et donc, nous, on est quelque part, on est le prince charmant qui vient faire le baiser, qui est l'interprétation sur son instrument. Et effectivement, il y a une capacité à interpréter, mais au sens aussi de, voilà, les différents sens que peuvent avoir un mot et les différents sens que peuvent avoir une note. Mais plus qu'une note, parce que la plupart des gens, et même des étudiants, croient que finalement, l'écriture de la musique, c'est les notes et le rythme. C'est beaucoup plus que ça, c'est le phrasé, quand un compositeur met une liaison plus grande, ou tous les mots qui sont utilisés, forte, accent, pas accent, mais tout ça, il faut le... Ça a 10 sens différents, quoi. Il faut réfléchir dans quel contexte, où, quoi, comment. Un accent chez Beethoven, c'est pas la même chose qu'un accent chez Shostakovich.
Bon. Je pensais, en vous écoutant, à Menachem Pressler.
Oui, alors absolument, parce que bon, c'est d'abord...
Rappelez-nous qui est Menachem Pressler.
Alors, Menachem Pressler, c'est un immense pianiste, un homme extraordinaire, bon, qui a été, je parle pas toute sa vie, il est parti d'Allemagne, évidemment, au moment que tout le monde imagine, et il est passé par la Palestine, mais il était pas très content, il est reparti aux États-Unis, il est devenu un des plus, et puis surtout un peu le cheville ouvrière de la grande école de Bloomington, et ils ont créé surtout le fameux Beaux-Arts Trio, Fine Arts Trio, qui a été mondialement connu. Ils jouaient, en plus ils jouaient un peu comme un clown, enfin c'est mais en même temps, enfin je veux dire, ils faisaient des gestes absolument incroyables, mais c'était un grand monsieur. Il est mort, et alors il y a quelques années, il est venu faire une masterclass, on s'est au conservatoire, et on s'est entendu très bien. Et voilà, il y a quelqu'un qui jouait un peu de façon, on va dire, un peu mécanique, et très très fort techniquement, sans doute même peut-être plus fort au point de vue virtuosité que Menachem Pressler lui-même. Mais bon, il n'était pas content de ce qu'il entendait. Et il m'a dit, ils ne comprennent pas que c'est comme le Talmud, il faut interpréter, il ne faut pas faire do, totem, popom, papa, papa, parce qu'il y a marqué appassionato, par exemple. Voilà. Et il disait, c'est le Talmud, quoi, mais ça, ils ne comprennent plus.
Son parcours est un petit peu celui de votre héros, c'est-à-dire qui quitte l'Europe pour aller en Palestine mandataire de l'époque et puis revenir avec sa famille. En tout cas, c'est le parcours que fait votre héros. Et votre héros, Misha Kleinman, vous le faites naître à Kishinev. Mm-hmm. Le choix de la ville de Kishinev comme berceau de votre histoire n'est pas anodin. C'est l'une des villes les plus importantes de l'histoire juive. On parlait il y a 15 jours avec Pierre Savy des dates qui jalonnent et construisent l'histoire juive. 1903, l'année du pogrom de Kishinev, en est une. Ses conséquences se font sentir jusqu'à aujourd'hui dans la mémoire du judaïsme et de l'Europe. Le film récent de Zohar Wexler intitulé « Lève-toi et va » en témoigne. Parlez-nous de votre Kishinev et de la Moldavie. Pourquoi y avoir inscrit les racines de l'histoire de vos personnages, Ami Flammer ?
Alors là, j'avoue, c'est très simple, tout simplement parce que ma mère était moldave, née à Soroka, qui est une ville juste à la frontière. Donc oui, ma mère vient de là, elle m'en parlait tout le temps, et donc de la Roumanie, petit, elle m'a amené très tôt à Mamaya pour voir la Roumanie, et puis après, du coup, il fallait jouer Enescu, qui était le compositeur et grand violoniste national, et qui était un héros pour tous ces gens-là. Toute cette transmission était importante pour moi. Et j'avais pas encore commencé à écrire le livre, mais j'avais déjà le livre un peu dans la tête. Par hasard, on m'a demandé de faire des concerts à Kishinev. Il faut absolument, je pourrais... Bon. Et j'ai passé une semaine formidable à Kishinev, qui m'a aidé à écrire le livre, toute la description surtout de la ville et du ghetto et de l'ancien ghetto et de l'énorme, énorme, énorme présence. Il n'y a plus personne, mais en même temps, par les bâtiments, par les quartiers, c'est encore bien présent. Juive, enfin, présence juive. Et ça a été très important pour moi parce qu'en plus, des gens m'ont aidé à voir des choses, des souvenirs. Il y a une vieille reste de synagogue où on voit encore des traces de balles. Bon, mais puis j'ai pu décrire grâce à ça la gare, par exemple, qui pour moi me paraît un endroit cinglé où on se demande où on part, quoi. Il n'y a jamais de train, mais il y a des quais énormes. On se demande si on va. Enfin, moi, évidemment, je vais là, il n'y a personne sur les quais. Est-ce que c'est pour aller à Moscou? Est-ce que c'est pour aller à New York direct sans passer par l'océan? Est-ce que c'est pour aller dans les camps directs? Enfin, je veux dire, on se dit tout ça quand on est là-bas. Surtout que la place qui est en face, il y a l'énorme statue équestre du, je sais plus son nom, du grand roi pire, le pire antisémite du monde, enfin, et qui est là quand même. Et curieusement, alors moi j'étais allé pour jouer du coup des compositeurs, certains vivants, d'autres qui étaient morts il y a peu de temps, donc musique entre guillemets contemporaine moldave, intéressante d'ailleurs, je dois dire. Et à ma grande étonnement, les trois compositeurs étaient tous juifs, alors qu'il n'y a plus aucun juif pratiquement en Moldavie, mais les trois compositeurs étaient juifs. Dont un qui est celui que j'ai joué d'ailleurs, qui s'appelait Lebel, et on sait que Lebel c'est Lévi, quoi. Donc c'était assez étrange de me faire visiter tout ça, et puis de retrouver plein de choses, mais en même temps de retrouver les desserts dont parlait ma mère, enfin le papanache, le fameux papanache, enfin bon, beaucoup de choses. Mais c'est d'abord, oui, lié à le récit de ma mère, de son enfance.
Et donc un moment de l'histoire juive très importante qui a complètement été effacée, et d'en reparler, c'est refaire vivre aussi cette ville. Alors on a l'impression, en vous lisant, Ami Flammeur, que vous voyez le monde à travers la musique. Par exemple, quand l'un de vos personnages dit « il avait l'impression que le salon avait rétréci de moitié et que l'obscurité avait envahi tout le quartier comme un orchestre qui ferait la grève des nuances » jouant tout mezzo-piano. Ou dans un autre passage, quand le train siffle et crache, ce sont des clusters de trombones réguliers, qu'entend Micha, votre héros. Et quand le bateau s'éloigne de Marseille, les paysages s'éloignent dans un long diminuendo, poco a poco. On pense à ce célèbre verset qui décrit la révélation au Mont Sinaï, dont vous semblez faire un commentaire discret et subtil, et tout le peuple voyait les voix auxquelles Claudel donne un bel écho, dans le titre de son livre, « L'œil écoute, Ami Flammeur ». Vous entendez le monde en son.
Beaucoup, oui, c'est vrai. Ce qui d'ailleurs ne m'empêche pas de regarder le monde. Quand on aime vraiment la musique, quand on est dedans, quand on ressent les sons de l'intérieur, ils sont partout. Et d'ailleurs, les sons sont partout. Moi, je dis toujours, c'est quand même une chose extraordinaire. Les yeux se ferment, les oreilles jamais. Les yeux se ferment la nuit, ou si on veut les fermer, est-ce que vous pouvez fermer vos oreilles? Non. Donc les oreilles ne se ferment jamais, les oreilles écoutent toujours, même la nuit, même tout le temps, donc on entend. Et effectivement, et après, quand on est musicien, en plus, on entend, et en le voulant ou en ne le voulant pas, on traduit en son, en notes, par exemple, vous venez de dire diminuendo, il y a 36 diminuendo différents, comme il y a 36 crescendo différents, j'arrête pas de dire à mes étudiants, vous, attention, un crescendo, par exemple, crescendo, ça veut dire aller de plus en plus fort, hein, bien sûr, ben, un crescendo qui aboutit juste sur un waouh, comme ça, c'est pas la même chose qu'un crescendo qui aboutit sur un nouvel élément. Et donc, par exemple, le crescendo qui est juste... Ça, c'est un crescendo. Okay. Mais... Je dis n'importe quoi, c'est en gros du chose ça, ce que je vous chante. Faux, mais bon. Et bien là, il est visuel. Tout d'un coup, le crescendo devient visuel, et je leur dis, c'est Macbeth. C'est pas un crescendo seulement du volume. C'est la forêt qui vous arrive dessus. Et qui vous arrive vraiment dessus. Et vous devez le prendre. Quand vous arrivez au fortissimo, vous jouez là, pas seulement fortissimo parce que c'est fort, vous jouez, parce que la forêt vous est rentrée dedans. Et le public doit le ressentir. Le public doit pas seulement dire, tiens, il a joué de plus en plus fort. Non, le public doit avoir peur. Même l'œuvre qu'on a jouée 200 fois, il faut refaire vivre cette peur tout le temps. Mais pas seulement vous. Si vous le sentez, le public le sentira. Il saura pas l'expliquer, il saura pas vous dire ce qu'il a ressenti, il saura pas vous dire, tiens, votre crescendo, vous l'avez bien mené. Mais ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit, que les poils lui montent ou qu'il ait peur, quoi. Et ça, bah, c'est deux façons totalement différentes de faire un crescendo. Pareil dans l'autre sens pour le diminuendo qui va jusqu'à al niente, enfin, à rien. C'est pas la même chose que le diminuendo qui va amener à une nouvelle mélodie ou à une nouvelle phrase, simplement parce qu'on vient d'un climax, entre guillemets, qui va. C'est toute la journée. Donc, effectivement, on entend tout, tout le monde pense qu'adagio, ça veut dire lent. Adagio, ça veut pas dire lent, ça veut dire à l'aise. L'allegro, ça veut dire joyeux, c'est l'allégresse, hein. Ça veut pas dire vite.
Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. schwemmt den stillen Horizont. Gelüste, schauerlich und süß, durchschwimmen ohne Zahl die Fluten. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen lieb.
Le début du Pierrot Lunaire de Schoenberg, c'est la version de Pierre Boulez et la soprano Christine Schaeffer, l'apprentissage du violon auprès de Léopold Auer au conservatoire de Saint-Pétersbourg est l'occasion pour votre héros, Misha Kleinman, de faire la rencontre de condisciples et de la révolution russe, l'occasion de discussions sans fin, non seulement sur la politique, mais sur le lien entre politique et musique. Une question fondamentale qui nous permet peut-être de comprendre justement pourquoi c'est à ce moment-là que naît une nouvelle musique, la musique de Schoenberg et le dodécaphonisme, ami Flammeur.
Oui, alors bon, ça c'est un poil autobiographique sans l'être, mais enfin c'est vrai que moi aussi je me suis assez vite intéressé à la musique contemporaine parce que je pensais qu'il fallait comprendre ce qui évoluait. Mais en tout cas, ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est qu'effectivement Micha, il arrive donc dans cette classe exceptionnel, enfin mondialement connu, hein, la classe de Léopold Auer. D'ailleurs, on travaille des fois encore sur des exercices de Auer, sur des méthodes, etc. Et tout le monde rêvait d'être dans cette classe.
Donc il quitte Kishinev, dont nous avons parlé, il va à Saint-Pétersbourg.
Oui, par cette gare improbable.
Voilà, il rentre dans la classe de Léopold Auer, ce très très grand pédagogue. Il rencontre des condisciples et va faire la découverte de la musique contemporaine.
Enfin, il va être passionné par ce qui se passe, parce qu'il y a évidemment des classes, il y a des classes instrumentales, mais il y a évidemment des classes de composition. Et puis attention, c'est pas rien. Les copains qui sont à ce moment-là étudiants, c'est Shostakovich, c'est Prokofiev, voilà. C'est
Michael Mann
en violon, mais en composition aussi, c'est pas n'importe quoi. Enfin, donc voilà, Rachmaninov, tout ça. Et donc il s'intéresse, il a envie de savoir ce qui se passe, et il a envie, comme je dis toujours, mais c'est un peu mon cas aussi. Bon, on peut faire des gammes toute la journée, mais en même temps, on essaye de savoir ce qui se passe dehors, quoi. Enfin bon, voilà. Et moi, j'ai une chance énorme, alors là, c'est personnel, c'est que j'ai eu comme professeur à un moment donné Nathan Milstein, qui était un immense violoniste et qui était dans cette fameuse classe avec Yasha Heifetz, avec tout, enfin avec les ceux qui sont devenus les plus grands dans le monde, hein, il faut bien le dire. Et donc qui m'a raconté cette classe et la violence aussi de cette classe, parce que ça j'en parle dans le bouquin. C'est bien sûr inespéré, c'est merveilleux. Lui, il se sent le moins fort, il se sent nul, il se sent même pas tellement légitime dans cette classe, mais apparemment, Auer quand même l'aime bien. Mais Auer était connu comme un homme très très dur. Enfin, on me disait d'ailleurs, à cause de ça, mais quand il faisait venir tout le monde à la classe, ce qui est vachement bien, et personne ne savait quand il allait jouer, quoi. Et ils disent toujours, quand il désignait quelqu'un, on se demandait s'il était désigné pour être fusillé, quoi. Puis c'était quelqu'un de très dur qui pensait qu'il fallait avoir une technique inattaquable. Et d'ailleurs, Micha se révolte un peu contre ça. Il voudrait qu'on lui parle un peu plus de musique. L'autre, c'était « Je vous prépare à être des grands musiciens, instrumentistes mondialement connus qui vont pouvoir jouer dans toutes les conditions, même si vous venez de 4 jours de bateau, même si vous êtes fatigué, vous allez jouer le concerto de Brahms sans une note à côté. » Voilà. Donc, il faisait des gammes. Heifetz, d'ailleurs, est devenu comme ça. Il est devenu un prof comme ça où il fallait faire 5 heures de gamme par jour. Bon, moi, j'ai refusé d'y aller à cause de ça. Je me suis dit jamais. Et alors, donc, lui, évidemment, on est là, juste avant, enfin, dans les prémices de la révolution bolchevique. Et il commence quand même à s'intéresser à tout ça. On lui en parle. Il y a des gens. Et il y a la fameuse conférence qui a existé, Emma Goldman, qui est venue par le prolet de culte et tous ces courants de l'époque qui veulent mettre l'art au service de la révolution, et de la politique. Il y a une vraie réflexion sur culture et politique, culture et révolution, qui est au départ pas idiote du tout. Après, c'est très vite devenu malheureusement un carcan, au contraire, très répressif. Mais au départ, il y a les futuristes, il y a tout ça. Et lui, ça l'intéresse, il va aux conférences, il est un peu... Et puis il se dit, mais alors à quoi ça sert de jouer du Beethoven alors qu'il a travaillé ça toute sa vie, du Bach, peut-être qu'ils ont raison. Et puis petit à petit, ben voilà, ils discutent. Et il y a un jeune Allemand qui arrive... Et au conservatoire, mais plus pour voir un peu, parce qu'on commence à parler de ces prémices, il vient voir ce qui se passe en Russie qui va devenir soviétique. Et il leur dit, vous savez, il y a un type, vous le connaissez sûrement pas, à Vienne, qui est en train de tout bouleverser dans la musique. Et il s'appelle Arnold Schoenberg. Et il dit, ah bon, ah bon. Puis alors, presque en cachette, il leur montre des extraits du Pierrot Lunaire, parce que le Pierrot Lunaire est final, l'opus, je sais plus, ça doit être marqué sur le bouquin, 9, je crois, mais enfin, en tout cas, c'est assez vite. Il a écrit au départ des œuvres sublimissimes qui sont post-romantiques, qui sont du post-Strauss, on va dire, mais qui sont aussi un adieu. Quelque part, moi, j'ai toujours dit, dans La Nuit Transfigurée, mais encore, post-tonal, on va dire. On a l'impression qu'il dit adieu, il dit vous, adieu la tonalité, vous nous avez tant apporté, vous nous avez tellement ravis, mais c'est fini, adieu. Mais adieu nostalgique et amoureux, tout en disant je vais faire complètement autre chose. Et là, hop, il écrit la, le Pierrot Lunaire, qui est une rupture totale, et où, pour aller très vite, par exemple, vous savez que dans la tonalité, il y a 3 degrés qui sont le squelette, on va dire, de la tonalité. 1, 4, 5. Premier degré, quatrième degré, cinquième degré, la dominante. Comme par hasard, elle s'appelle la dominante. Bon, dominante, en même temps, si on traduit en termes politiques, c'est la domination. Bon. Et ça compte là-dedans. Ça compte, comme disait Sebok ou Sian Campelis, la musique n'est pas démocratique. Toutes les notes n'ont pas la même importance. Ça, c'est dans la musique tonale. Et tout d'un coup, Schoenberg arrive, sans doute sans penser à tout ça, hein. Mais peut-être c'est juste un truc oedipien, il faut toujours dans l'art avancer et tuer ce qui s'est passé avant. Mais en tout cas, il dit non, pas du tout. Il n'y a plus un 4-5. Il y a 12 notes, puisqu'on a, disons, 7 notes plus les demi-tons, ça fait 12. Et ils sont tous aussi importants l'un que l'autre. Et on va travailler à partir de ces 12 sons, d'où dodéca, qui veut dire 12, évidemment, dodécaphonisme. Et les 12 sons sont aussi importants. Ça crée des espèces de séries. Bon, on dit déjà séries, mais même si la musique sérielle pure vient un peu plus tard, on pourra en parler. Et on crée, voilà, presque arbitrairement, on dit, voilà ma série, mes 12 notes, et je vais écrire ma pièce. Il n'y a plus de thème, mais il y a une série de 12 notes qui vont être le squelette, et on va construire toute l'œuvre autour de ça. Donc on a des sons qui sont complètement différents, et surtout, il était très amoureux du cabaret viennois, et il écrit cette pièce avec ce qu'on appelle le Sprechgesang, le chanté-parler. Sur la partition, il n'y a plus des notes, il y a des croix qui sont un peu réparties visuellement sur les 5 lignes de la portée. C'est jamais ta, c'est ta, ta, hein, hein. Il disait d'ailleurs que c'est beaucoup inspiré de Sarah Bernhardt, parce que Sarah Bernhardt presque chantait en parlant, et ça donne cette chose tout à fait nouvelle, et ils sont dans le conservatoire de Saint-Pétersbourg, et ils déchiffrent ça, ils n'y comprennent pas grand-chose, ils disent là, voilà, le monde éclate, la tonalité explose, et le monde aussi.
Le héros de votre livre, et le héros et sa famille, hésitent entre un départ pour la France ou pour la Palestine. Le héros, Misha Kleinman, a, au bout de 10 ans, a fini ses études avec Léopold Auer à Saint-Pétersbourg, il revient à Kishinev. Mais devant l'antisémitisme fort, la famille décide de partir. Ils vont partir, en fait, pour Israël. Et puis, l'occasion pour vous, dans ce roman, de nous faire une leçon d'histoire du sionisme qui souligne à quel point ce que l'on appelle le sionisme est fait de courants divergents, opposés et contradictoires. Une discussion talmudique dans sa version politique à Muflammer.
Quand j'ai commencé le bouquin, je savais pas encore exactement ce que deviendrait cette famille. Mais je savais aussi que j'avais pas très envie que ça se passe en Europe et sur la Shoah elle-même. Et j'avais envie de montrer aussi que peut-être des gens qui n'étaient pas directement victimes de la Shoah étaient quand même des victimes, puisqu'à la fin, la famille, elle va mal quand même. Bon. Et puis en plus, j'avais envie d'informer, parce que je trouve que cette période-là, je veux dire, pas tout à fait du début du sionisme, puisque ça a commencé bien avant encore, mais cette période-là, disons, entre les deux guerres, mais pas en Europe, en Palestine, elle est presque... Enfin, on connaît pas, quoi, les gens disent n'importe quoi sur tout ça, sur le début du sionisme, et j'avais envie de vraiment, d'abord, d'expliquer à quel point, bon, on pourrait, mais on n'a pas le temps aussi, mais parler de ce que c'est le sionisme, déjà, bon, voilà, et puis surtout, il y en a plein. Les conflits sont importants quand même dans toute cette montée progressive du mouvement sioniste pour la création d'un État juif. Je voulais parler de ça et je voulais en plus rendre hommage à ce groupe et à ces intellectuels juifs allemands, la plupart, Scholem, Buber, qui avaient créé ce mouvement, comme je trouve, assez exemplaire. Brit Shalom, l'Union pour la paix, et qui disaient, attendez, bon, peut-être on va faire l'État. Ils étaient, bien sûr... Il fallait, de toute façon, les gens venaient pas seulement par sionisme, ils venaient pour se sauver. Hein. Je veux dire, la famille, dans mon bouquin, ils sont pas sionistes. Ils vont en refuge. Mais ces gens-là ont dit, attention, il faut apprendre à vivre d'abord ensemble. On fera peut-être l'État plus tard. Alors, bien sûr, c'est facile à dire.
Moi, je pense qu'ils ont avec les Arabes.
Oui, avec les Arabes. Et travailler ensemble, voir, se faire accepter. Enfin bon, il faut pas... Bon, ils ont pas été écoutés. Alors, bien sûr, maintenant... Est-ce qu'il y aurait eu un État si on les avait suivis, eux? Je n'en sais rien. En tout cas, ils se sont affrontés à Ben Gurion, qui, lui, voulait aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas, il y avait quelque chose chez eux qui était essentiel. Il ne faut pas non plus oublier que les grands spécialistes de la mystique juive, souvent, ont des passés et des sympathies anarchistes. Je pense à Scholem, Buber aussi, Scholem beaucoup, il en parle souvent. Et d'ailleurs, moi, enfin, je ne devrais pas vous dire ça à vous, mais enfin quand même, en lisant beaucoup sur la Kabbale, les grands courants et tout ça, des fois je me dis, cette espèce de liberté de penser, cette espèce d'ouverture totale, on sait pas aller très loin, quoi. Il y a quelque chose de proche, oui, ça m'étonne pas complètement qu'ils aient eu des sympathies anarchisantes. Bon, le kibbutz est quelque chose qui fait vraiment penser à l'anarchie. D'ailleurs, je le dis dans le livre, je ne le savais pas avant d'écrire le livre, Kropotkin, que nous, on étudiait dans les mouvements anarchistes, le prince russe, vraiment prince, noble, rien à voir avec le judaïsme, dès la fin du 19e siècle, il entend parler des kibbutz et il vient. Et il dit, ça y est, on applique l'anarchisme quelque part. Et il passe un an dans un kibbutz et il reste là-bas. C'est inouï. Dites ça même aux militants anarchistes de maintenant, ils ne vont pas vous croire.
Et vous parlez aussi de la création avec Toscanini du premier orchestre de Palestine, ouais. Mandataire. Vers la fin de votre livre, vous racontez que le héros retourne à Paris et puis il visite le conservatoire, lui qui vient de Kishinev, en étant passé par Saint-Pétersbourg, en étant passé par Tel Aviv. Il arrive près du conservatoire de Paris et je me suis dit, la musique a une place particulière dans la construction de l'Europe. En tout cas, c'est ce que vous suggérez en soulignant, en passant, que la station de métro qui dessert le Conservatoire National Supérieur de Musique s'appelle Europe et que toutes les rues avoisinantes portent des noms de capitales européennes. Quel rôle peut jouer la musique dans la construction, toujours en devenir, de l'Europe, ami Flammeur ?
Deux choses. D'abord, ça oui, j'aime beaucoup cette idée, mais en même temps, c'est un peu un jeu, parce qu'évidemment, le conservatoire, avant, il était rue du conservatoire. mais en même temps, moi, ce qui me touche le plus par rapport à Musique Europe, c'est l'apport de Bach. Parce que ce qu'on appelle le tempérament, alors les gens ne savent pas toujours, le tempérament dans la musique, c'est pas seulement le tempérament d'une personne, c'est pas du tout ça. Le tempérament, c'est de dire, simplement de partir de l'idée qu'un ton est divisé en 9 parties, pas en 8 ni en 10. Donc on peut pas diviser par 2. Donc les demi-tons ne sont pas égaux. Il y a le demi-ton chromatique qui fait 5, comma, et l'autre qui en fait 4. Et ça pose d'énormes problèmes de justesse et d'accord. Et M. Bach arrive et écrit le clavecin bien tempéré. C'est ça le tempérament. C'est-à-dire qu'il dit Do dièse et Ré bémol, c'est pareil. Ce qui n'est en réalité pas vrai. Mais sur tous les claviers, tout d'un coup, c'est pareil. Et du coup, eh ben, les gens peuvent jouer ensemble. Et surtout, du coup, on peut jouer sur le même clavier des choses de tonalités différentes. On n'est pas obligé de réaccorder quand on change de tonalité, ce qui était le cas avant Bach. Et en plus, il y avait des accords très différents, des dizaines d'accords différents, et des fois, c'était d'une ville à l'autre. Il fallait vraiment tout s'adapter. On pouvait rarement jouer avec des musiciens de la ville de 200 km. Et tout d'un coup, par l'invention du tempérament, par Bach, eh ben, on peut jouer avec... même un Allemand, petit à petit, peut jouer avec un Italien, ce qui était impossible avant. Et donc, moi, j'ai toujours un peu tendance à dire que oui, Bach a fait beaucoup pour la construction de l'Europe. Voilà, je trouve ça joli comme idée.
Ami Flammeur, même si avec vos personnages on fait un détour par la musique spectrale de Gérard Griset, votre roman se termine sur les notes de l'adagio de la première sonate de Bach que vous avez déjà fait entendre dans le livre, lors du départ de toute la famille de Moldavie. Cette musique accompagne la mort et la fin des choses, mais en même temps elle suggère la résurrection de toute chose. Bach est vraiment, on a l'impression, ce ruisseau de la vie qui ne tarit jamais. Parlez-nous de cet adagio, ami Flammeur.
Alors cet adagio, d'abord, mais c'est pas un hasard, Micha, dans le bouquin, chaque fois qu'il va mal, il joue cet adagio. Pour lui-même, pas du tout, on parle pas de concert, là. Et je comprends. Je comprends parce que, d'abord, c'est une merveille, mais il y a surtout cette espèce de douceur, pas lente, mais on est installé quelque part, quoi. Et en même temps, à l'intérieur, ça bouge. Moi, je suis parmi ceux qui jouent un peu avec une mobilité baroque, mais avec une stabilité moderne, je sais pas comment dire. Puis surtout, parce que ça, je crois beaucoup à ça. D'ailleurs, Milstein disait toujours ça dans ses cours, attention à la première note. La première note va déterminer tout votre concert. Donc vous devez... Alors, et c'est vrai, moi je le sens dans mes concerts, je pense à la première note, je la vis 2 heures avant. La première, pas le reste, la première. Et ce sol, ré, si, sol, l'accord, là, donc sol mineur vraiment pur, c'est que d'abord, il y a cette espèce de façon de commencer par sol, ré, si, sol. Il faut bien ne pas oublier que nous, on n'est pas un instrument polyphonique. Et c'est le seul qui a écrit des choses sublimes pour le violon, qui joue plusieurs sons à la fois. Ce qu'on ne fait jamais, nous, on joue, et avant et après, on joue mélodique, on joue la chantilly, si je puis dire, on joue pas le cœur harmonique comme un clavier. Et donc, il y a tout, quand même, on commence par ces quatre notes ensemble. D'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que toutes les éditions françaises jusqu'à 1950 mettaient sol, ré, si, triple croche avec un silence, et seulement le sol d'en haut, parce qu'on pouvait pas tenir les quatre. Mais Bach savait très bien qu'on pouvait pas tenir les quatre, mais il a quand même mis les quatre en blanche. Donc, c'est virtuel. Mais il faut le faire. Et donc, on a sol, ré, si, sol, et ce premier accord, qui d'ailleurs est le dernier aussi, je sais pas comment vous dire, c'est une espèce de façon de dire, attendez, maintenant, vous êtes là, je vais vous raconter une histoire. Je vous dis, je m'installe, je fais sol, ré, si, sol, et on va parler, et on va parler, et on va parler.
Merci à Mi Flammeur pour cette leçon de vie, d'histoire et de musique. C'était un vrai bonheur de vous entendre. Je rappelle le titre de votre roman, Il se souvenait de l'histoire. C'est aux éditions Librisfera, à la fois un livre et une playlist d'œuvres musicales à découvrir et à redécouvrir. Je signale d'ailleurs qu'un spectacle va être construit autour de ce livre qui s'appellera aussi Il se souvenait de l'histoire. Entre-temps, les auditeurs pourront aussi écouter votre dernier disque, sorti récemment, intitulé « Sobrement, Jean-Sébastien Bach ». Merci encore à Mi Flammeur.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui, Delphine Baudet, à la réalisation, Alexandra Malka. Koltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.